France Culture. France Culture, Affaires étrangères, Christine Ockrent.
Bonjour à tous. Le monde est en état de choc et quels que soient les dégâts déjà considérables, c'est sans doute l'objectif recherché. Ivre de son pouvoir, Donald Trump inflige à l'économie planétaire un traumatisme sans précédent. Droits de douane à tout va, matraquage tarifaire des pays qui étaient jusqu'à lui les plus proches alliés des États-Unis, démantèlement du système qui depuis 80 ans régissait le commerce international pour leurs plus grands bénéfices. En deux jours, les bourses mondiales ont dévissé, et d'abord les indices new-yorkais, le dollar a fléchi, les chaînes de valeur sont ébranlées, les échanges sont plombés, les acteurs économiques restent stupéfaits, des secteurs entiers sont plongés dans l'inquiétude. Qu'importe, le 47e président des États-Unis a proclamé mercredi soir, depuis le jardin de la Maison-Blanche, qu'il libérait son pays de tous ceux qu'il a qualifiés de voleurs, de tricheurs, de profiteurs, de violeurs, de salopards, autrement dit, tous les partenaires coupables d'afficher des excédents de leur balance commerciale, la Chine et l'Union européenne en tête. L'économie mondiale a basculé dans l'ère MAGA, avec sa brutalité, son vocabulaire et ses méthodes de calcul qui ont laissé pantois les économistes les plus blasés. Ce matin, au tableau des punitions différenciées brandies par Donald Trump et qui frapperont mercredi prochain, Washington vient d'ajouter une surtaxe générale de 10%. Partout, de Tokyo à Londres, pourtant mieux traité, la même question se pose, comment répondre? Faut-il déclencher immédiatement des représailles, comme l'a fait hier Pékin, en augmentant ses propres droits de 34%, ou faut-il préserver un espace de négociation en flattant celui qui se targue d'être le roi du deal? En Europe, à Bruxelles, comme au niveau national, on hésite. La Commission européenne se dit prête à réagir par étapes et à envisager d'utiliser de nouveaux outils de coercition, notamment à l'encontre des géants américains du numérique. À Paris, Emmanuel Macron insiste sur la nécessité d'une réponse vigoureuse au moment où la solidité des liens transatlantiques est aussi remise en cause en matière de défense et de sécurité. À Berlin, le prochain chancelier est sur la même longueur d'onde, mais aura-t-il les moyens de résister aux accommodements espérés par les industriels allemands de l'automobile et de la chimie? Les partenaires européens vont-ils rester unis alors que leurs exportations ne sont pas menacées de la même manière? Au-delà des hésitations tactiques des principaux protagonistes, une question massive reste en suspens. Quelles seront les répercussions du raidissement protectionniste et mercantiliste de l'administration Trump 2 sur l'économie américaine elle-même, jusqu'ici la plus puissante, la plus dynamique, la plus innovante de toutes, et quel impact sur la marche du monde? Eh bien, c'est ce que nous allons comprendre ce matin grâce à vous, Elvire Fabry, responsable géopolitique du commerce à l'Institut Jacques Delors, rapporteur du groupe de travail sur les relations Union européenne-Chine. Agatha Kratz, ravie de vous accueillir à nouveau. Vous êtes associée de Rhodium Group, qui est un centre de recherche extrêmement pointu sur l'économie mondiale, et vous êtes responsable du Bureau Europe. Éric Chanet, ravi aussi de vous recevoir à nouveau, expert associé sur les questions d'économie à l'Institut Montaigne, ancien chef économiste du groupe AXA. Et Shane Vallée, chercheur en économie politique au Conseil allemand des relations étrangères à Berlin. Éric Chanet, Donald Trump, avec son vocabulaire particulier, s'est écrié mercredi soir « rich, rich, rich ». On va être riche comme jamais. Bon, ce qu'on voit depuis deux jours, c'est presque de l'autophagie, c'est-à-dire qu'on a vu s'évaporer en bourse, en tout cas, 5,4 trillions de dollars. On a du mal à imaginer ce que ça représente.
Oui, je crois que vous aviez utilisé le mot automutilation. Je le trouve assez bien choisi. Les marchés financiers ont immédiatement réagi. Comme il faut bien que l'argent aille quelque part, ça a fait baisser les taux d'intérêt à long terme. Mais Trump dit, et c'est ce que aussi Scott Bessent, le ministre des Finances américain, a dit, bon, ça sera un petit peu dur au début, mais vous allez voir, les lendemains chanteront. Et mon analyse, c'est que si ces mesures sont maintenues, c'est un signe important, si ces mesures sont maintenues, c'est catastrophique à court terme, mais c'est encore pire à long terme.
Ben, nous voilà bien partis.
Donc les lendemains qui chantent seront des lendemains qui déchanteraient d'une manière très impressionnante. Alors pourquoi ? À court terme, il y a un premier effet massif, c'est qu'on ne sait pas où on va. Et pour toutes les décisions prises par les entreprises, n'avoir aucune idée de là où on va conduit à un attentisme total, qu'il s'agisse des embauches, des investissements. On fait le dos rond en attendant de comprendre le monde que Trump a préparé. Je parle des entreprises mondiales, mais évidemment avant tout des entreprises américaines. Si on va vers les 20% les estimations sont pour les tarifs mondiaux que les États-Unis introduisent, entre 20 et 25%, c'est au-dessus de ce que la loi Smoot-Hawley en 1930 avait imposé et qui avait généralisé la récession.
Avec les résultats
qu'on connaît, oui. Et une autoroute pour Hitler pour arriver au pouvoir en particulier. Mais l'inflation montera assez rapidement. Elle peut monter de 2 points, sachant que...
Aux États-Unis,
je vais parler des États-Unis, sachant qu'on est déjà à 2,5, 3%, et donc on pourrait être entre 4 et 5%. Alors, rappelons-nous que si les Américains ont voté pour Trump, c'est qu'ils étaient horripilés par la très forte hausse des prix sortie de Covid. Eh bien là, il y en aura une couche de plus. Et les gens ont une mémoire qui n'est pas si courte que ça.
Et il semblerait que pour Pâques, comme les œufs sont devenus trop chers, les Américains vont peindre des pommes de terre.
Eh bien voilà. Mais qui sait si les pommes de terre le prix des œufs est une des choses qui a frappé tout le monde aux États-Unis parce qu'il a doublé ou triplé. Donc inflation très forte, ce qui veut dire affrontement avec la Réserve fédérale, quoi qu'il se passe dans l'économie réelle. Ensuite récession. Ça me paraît maintenant être le scénario de loin le plus probable. Les chaînes vous en avez parlé, mais les chaînes de valeur ajoutée sont mondialisées. Par exemple, entre les États-Unis et le Canada, il y a des échanges pour des entreprises manufacturières américaines qui consistent à passer 10 fois la frontière. Alors si à chaque fois on a 10% de tarifs, on arrête.
Et même entre les États-Unis et l'Union européenne, bien
encore
évidemment.
Plus. Je citais le Canada parce que le Canada a été relativement épargné et puis qu'il y a une intégration très forte des deux économies. Donc récession à court terme, avec augmentation du chômage, qui est augmentée par les licenciements dans la fonction publique, par l'attitude d'attentisme que j'ai signalée, même pour les entreprises qui vont bien. Et donc tout ceci est très mauvais à court terme. Mais voilà, c'est le long terme que je trouve le plus important.
Et les entreprises qui vont bien, et les alliés les plus riches, si j'ose dire, les barons de la tech, qui étaient tous là empressés au moment de la prestation de serment du président des États-Unis, et dont la valorisation vient d'être frappée de plein fouet. Donc, Elvire Fabry, venons-en à ce qui nous concerne au premier chef, nous, Européens, et nous, en France, est-ce que l'on va voir un défilé de nos dirigeants à Washington ? On sait que hier, et c'est quand même sidérant, la première conversation dont Donald Trump s'est flatté, c'est celle avec le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam. Le Vietnam, le pays le plus frappé, ayant l'excédent commercial le plus sidérant avec les États-Unis, parce que il a servi évidemment de plateforme triangulaire en quelque sorte pour beaucoup d'entreprises chinoises. Et Donald Trump a dit « j'ai eu une très très bonne conversation ». Donc, et le Vietnam a abaissé ses propres droits à zéro. Donc, est-ce que cela veut dire qu'il y aura des dirigeants européens tentés de suivre le même chemin ?
Alors, je dirais qu'heureusement, la politique commerciale est une compétence exclusive de l'Union européenne. Et il faut bien le rappeler, on a des débats là dans les États membres, mais la décision, elle se fera sur proposition de la Commission européenne, au Conseil européen, à la majorité qualifiée. Et on a commencé à entendre déjà des voix un petit peu dissonantes sur le choix des produits qui avaient été introduits dans l'enveloppe pour répondre aux droits américains sur l'acier et l'aluminium. On pense au bourbon et la menace de Donald Trump sur de 200% sur tous les vins et champagnes européens. C'est exactement le mauvais scénario vers lequel on s'avancerait, et c'est ce que souhaite Donald Trump, c'est diviser les Européens. C'est les amener à venir faire des concessions. Il faut bien avoir à l'esprit que lorsque Donald Trump là parle de réciprocité sur les droits de douane, dans le cas européen, on n'est pas tellement sur des écarts de droits de douane importants. Ce qu'il vise, c'est surtout les réglementations européennes, les barrières non tarifaires auxquelles il veut s'attaquer, les barrières sur le numérique, les barrières sur les normes environnementales, qui sont des éléments sur lesquels on ne peut pas négocier en tant que tel. Là, ce sont nos choix collectifs. On peut décider de les appliquer d'une certaine façon et de manière plus ou moins sévère, notamment sur tout le contrôle des plateformes américaines. Mais pour les Européens, c'est un moment où l'unité des 27, ou en tout cas à 26, si on exclut le vote hongrois, va être décisive pour calibrer la réponse européenne. Et on est en mesure, aujourd'hui, avec les nouveaux instruments que l'on a, de pouvoir faire mal. Mais il faut qu'il y ait une coordination très étroite des États membres.
Ce qui est intéressant, je crois, c'est qu'en matière de commerce, précisément, ce n'est pas la règle de l'unanimité qui compte. C'est la majorité qualifiée.
Absolument. Si on était amené en particulier à utiliser l'instrument anticoercition, dont on s'est équipé en 2023, mais qu'on n'a pas encore utilisé.
Donc c'est quoi, pardon? Non, allez au bout de votre phrase, pardon, puis vous nous direz c'est quoi les instruments anticoercition, parce que c'est un terme effectivement peu utilisé jusqu'ici.
Alors, si la Commission européenne là prend le temps d'apporter une réponse et de dire voilà quelle va être la mesure de rétorsion, déjà, comment on va réagir? C'est qu'on a plusieurs instruments aujourd'hui sur la table. On a un règlement d'enforcement qui permettrait de répondre déjà aux droits de douane sur l'acier et l'aluminium, y compris face aux droits de douane sur le secteur automobile, et qui permettrait...
Tous ces droits-là sont déjà entrés en vigueur.
Absolument. Et qui permettrait déjà d'appliquer des nouveaux droits de douane sur des importations américaines. Mais on a un instrument qui est beaucoup plus intéressant pour nous, et qui permettrait de répondre aux droits réciproques, donc les fameux 20%, qui est cet instrument anti-coercition. Et on voit bien que Donald Trump, en voulant s'attaquer aux réglementations européennes, nous amène sur un terrain de coercition économique très clair. Et là, pour les Européens, ça veut dire qu'ils pourraient, sur un vote à la majorité qualifiée et sur proposition de la Commission, à la fois restreindre l'accès au marché européen pour les biens, mais aussi pour les services. C'est très intéressant à un moment, lorsque l'on voit que les Américains non seulement exportent beaucoup de services vers l'Union européenne, mais sont très dépendants de notre marché et de l'accès à nos données. Donc sur les services, restreindre l'accès au marché public, on peut cibler des entreprises plus précisément, on peut même cibler des individus, suspendre les droits à la propriété intellectuelle, et on peut faire ça de manière cumulative. Donc on a les moyens de faire mal. Maintenant, il faut que la Commission européenne calibre et choisisse les services de manière chirurgicale, qui ne sont pas indispensables aux Européens, mais qui permettraient là, pour le coup, justement, d'établir une vraie réciprocité.
Et même si cela veut dire que ça nous coûterait plus cher à nous aussi, en termes de consommateurs d'outils numériques en particulier.
L'objectif serait éventuellement de mettre en place des taxes sur les services numériques, qui n'ont pas un coût pour les Européens, qui auraient un coût pour les entreprises américaines, et d'éviter précisément d'avoir une enveloppe trop importante, notamment de biens sur lesquels on applique des droits de douane, parce que ça aurait aussi un coût pour les Européens. Mais il faut bien garder à l'esprit qu'il faut rentrer dans une logique de résilience. Il va falloir mettre en place aussi des aides pour compenser les secteurs les plus fragilisés. Mais Donald Trump n'est pas là pour s'arrêter aux menaces initiales qu'il est en train d'appliquer à travers ses droits de douane.
Donc Donald Trump ne va pas s'arrêter. Chahine Vallée, évidemment, les trois économies européennes qui ont les excédents les plus importants avec les États-Unis, ce n'est pas malheureusement l'économie française, c'est l'Allemagne, l'Italie et aussi l'Irlande, dont on ne parle jamais, mais qui, pour des raisons fiscales et en particulier en ce qui concerne l'industrie pharmaceutique, qui n'est pas encore, je crois, désignée nommément par la Maison-Blanche. Ce sont les trois pays, évidemment, qui, au sein de l'Union européenne, sont en première ligne. Donc, en ce qui concerne l'Allemagne, Chahine, est-ce que le prochain chancelier, qui n'est pas encore en fonction, peut résister aux demandes déjà exprimées par les responsables de l'industrie automobile, de l'industrie chimique allemande?
Oui, je pense que oui. Il faut noter que puisque l'Allemagne a un surplus des plus importants, et notamment que ce surplus est en partie dû aux exportations de véhicules, l'Allemagne est aujourd'hui doublement touchée. C'est-à-dire qu'elle est touchée par les 20% de tarifs douaniers qui sont appliqués à tous les pays de l'Union européenne, mais elle est touchée d'autant plus par les 25% de tarifs douaniers additionnels sur le secteur automobile. Donc l'Allemagne est aujourd'hui peut-être la plus vulnérable face à la politique commerciale de Trump, mais il semble, en tout cas on verra quand le nouveau chancelier sera installé, mais il semble que cette exposition ne change pas l'engagement de l'Allemagne à répondre de manière assez dure à la politique commerciale de Trump. On a eu quelques déclarations ces deux derniers jours, notamment du vice-chancelier Habeck, qui évoquait ce que Elvire évoquait, c'est-à-dire de s'attaquer aux services. Et je pense que toute la question aujourd'hui en Europe, au-delà de la question des services, c'est aussi de ce qu'on fait sur les biens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous serions fondés à répondre aux tarifs douaniers de l'administration Trump par des tarifs douaniers équivalents. Des tarifs douaniers équivalents en dollars, c'est-à-dire que ces 20% de tarifs douaniers représentent un dommage de peut-être 75 milliards de dollars. Nous serions aujourd'hui fondés à appliquer aux États-Unis des dommages du même montant, ce qui amènerait à introduire des tarifs douaniers en retour, non pas de 20%, mais plutôt de l'ordre de 40 à 50% si on exclut les produits énergétiques. Et ça, on pourrait tout à fait le faire en répondant, en étant absolument conforme aux règles de l'OMC. Donc on a cette option-là, et j'ai envie de dire c'est l'option la plus simple et la plus évidente, qui ne nécessite pas de mobiliser de nouveaux outils. C'est une option dure et à la fois coûteuse pour nous, parce que en imposant ces tarifs douaniers, nous endommagerions nos exports, et il n'est pas évident que ce soit la meilleure réponse à apporter aujourd'hui. Mais ce qui est certain, c'est qu'une réponse combinant services et biens est nécessaire, et qu'elle est urgente. Et je pense que tout le monde est aujourd'hui assez sidéré par la rapidité avec laquelle la Chine a répondu, et je pense que ça met un peu de pression sur l'Union européenne, notamment sur les ministres du commerce extérieur qui vont se réunir lundi à Bruxelles, de trouver un consensus et un compromis rapide.
La Commission dans ce consensus, Chahine, pardon, je vous interromps, mais l'Italie, Madame Meloni, qui s'est tellement flattée de ses amitiés avec le président des États-Unis, avec Elon Musk, on voit, je crois qu'elle était sur la rail hier, elle est quand même très embarrassée.
Elle a évoqué, avant même que l'administration Trump déclenche cette nouvelle vague de tarifs, elle avait déjà évoqué l'idée que répondre un dollar pour un dollar en matière de tarifs serait une erreur. Donc elle est déjà sur une attitude beaucoup plus conservatrice. Je pense pas malgré tout qu'elle ait envie aujourd'hui de se mettre toute l'Europe à dos et d'adopter une position trop pro-américaine dans ce contexte. Donc je pense qu'elle militera pour une réponse plutôt douce et plutôt lente, mais je ne pense pas, par exemple, qu'elle aille jusqu'à voter contre le consensus. Et par ailleurs, comme Elvire le rappelait, ces décisions doivent être prises sous initiative de la Commission à la majorité qualifiée. Et donc, même si l'Italie, et j'ai envie de dire même si l'Italie et même si la Hongrie ensemble votaient contre, si le reste de l'Union est favorable, ces décisions s'imposeront.
Agatha Kratz, on sent qu'il y a évidemment en Europe, et cela s'ajoute encore une fois à toutes les interrogations, sinon les anxiétés concernant la sécurité et la défense européenne, on sent qu'il y a une convergence, en particulier des opinions publiques. On en discutait ici même samedi dernier en Europe. Pour autant, est-ce que cette envie de combativité, à votre avis, peut être soutenu à moyen et à long terme, puisque Éric Chanet, d'entrée de jeu, nous disait que ça va être très difficile à court terme et encore pire à long terme.
Je pense qu'il faut remettre tout ce qui s'est passé les 2-3 derniers jours dans le contexte de la négociation, puisqu'on est dans une phase de négociation. La façon dont on interprète chez Rhodium et pour ma part, les tarifs qui ont été mis en place depuis les 2 derniers mois par l'administration Trump, ce sont 3 types de tarifs différents. On a des tarifs stratégiques et sectoriels sur l'auto, bientôt sur la pharma, sur l'industrie pharmaceutique, probablement sur les semi-conducteurs, potentiellement sur ce que l'administration appelle machinerie, mais tout ce qui est l'industrie mécanique et de robotique. Et ces tarifs-là, ils ont pour vocation de ramener une activité productive aux États-Unis. On a un deuxième type de tarifs qui sont les tarifs à 10%, cette espèce de baseline tarif, comme ils l'appellent, qui sont le niveau de tarif qui est appliqué au monde entier, depuis la décision du 2 avril, il y a quelques jours. Et ces tarifs-là, pour moi, ils ont pour objectif de collecter le revenu nécessaire à l'administration Trump pour baisser les impôts. C'est ce qu'ils ont promis pendant la campagne. Et enfin, on a les tarifs réciproques qui ont été annoncés il y a quelques jours, et pour moi ce sont des tarifs qui sont des tarifs de négociation. Et donc à l'heure actuelle on voit une Union européenne qui est extrêmement combative. Elle était déjà combative à l'annonce des tarifs sur l'aluminium et sur l'acier, puisque la Commission a dit très rapidement qu'à 26 milliards de commerces qui étaient impactés par ces tarifs, la Commission répondrait par 26 milliards, un équivalent de 26 milliards de mesures de rétorsion sur un certain nombre de produits américains. Donc on la voit très combative sur ce front-là, et on va la voir, je pense, très combative sur le front des tarifs réciproques, avec ce qui me semble sera une proposition d'un paquet très extensif de contre-tarifs, mais aussi, comme on le parlait, potentiellement d'utilisation de l'instrument anti-coercition. Tout ça, c'est du court terme et c'est de la négociation. Je ne pense pas qu'il y a qui que ce soit en Europe qui ait envie d'avoir une situation globale où on ait des tarifs sur les exportations européennes et des tarifs sur les importations américaines qui restent dans le long terme, surtout au niveau où ils sont aujourd'hui, 20% d'un côté, potentiellement 20-25% de l'autre. Et donc, il faut comprendre cette combativité comme une combativité de court-moyen terme pour arriver à une négociation avec Trump. Et on voit des pays... tous les pays du monde qui ont finalement chacun une stratégie à eux, mais on voit quand même 2 grands groupes. On voit les pays qui ne répondent pas et qui choisissent de ne pas répondre parce qu'ils se disent que finalement la rétaliation, Trump n'aime pas ça et qu'il faut pas se mettre dans une situation où on peut avoir des tarifs en plus. Et c'est le Japon, c'est le Mexique. Quand on compare Mexique et Canada, le Mexique a été beaucoup plus limité dans sa réponse. C'est l'Inde, ce sont des pays comme ça qui espèrent obtenir quelque chose d'un deal, d'une négociation, et qui espèrent que finalement au bout de 6 mois ou d'un an, tout reviendra à la normale. Et ensuite, on a les pays comme l'Union européenne et la Chine, on en parlait il y a une minute, qui eux choisissent de répondre fortement pour se donner une position extrêmement, une fois de plus, de puissance dans la négociation. Aussi, et je pense parce qu'à la fois la Chine et les Européens savent que l'administration de Trump ne les porte pas dans leur cœur et que, quoi qu'il arrive, au bout du compte, ils ont moins de chances d'arriver à une négociation qui soit favorable. Et donc, on voit une position qui est forte. Long terme, ce sera beaucoup plus dur de tenir cette position, évidemment, quand on commencera à avoir l'impact sur les économies mondiales, européennes notamment, ce sera difficile. Mais peut-être mon dernier point est de dire, Eric l'a très bien dit, l'effet de ces droits de douane sont terribles pour le monde, ils sont avant tout terribles pour les États-Unis. Ce sont les États-Unis qui vont souffrir le plus des tarifs qu'ils s'imposent. Et donc, je pense qu'il y a aussi une stratégie européenne, chinoise, globale, qu'on va voir se déployer, d'attente. D'attente que, finalement, dans un mois, on voit les chiffres du commerce qui montrent que ça n'a rien changé. D'attente qui vont montrer que, dans un mois, l'inflation augmente. D'attente qui vont montrer que, dans un mois, on aura enlevé au marché américain, et donc aux pensions américaines et aux retraités américains, une valeur énorme. Et donc, je pense qu'il y a aussi une espèce de stratégie d'attentisme en disant, voyons qui blinks first, qui est-ce qui cligne des yeux en premier, comme disent les Américains, et voyons où on en est dans un mois. Donc il y a un peu de ça, je pense, et la négociation, il faut comprendre que c'est le contexte actuel.
Éric Chanet, on a vu le président de la République, c'était jeudi après-midi, réunir solennellement un certain nombre de chefs d'entreprise, de représentants de secteurs entiers de l'économie, et leur demander de faire preuve de patriotisme et donc d'arrêter d'investir aux États-Unis Apparemment, la réaction de quelques poids lourds a été plutôt négative en disant, mais le, voilà, nous, on n'en a rien à faire, pour reprendre une expression plus polie que celle qu'utilise le Figaro qui rapporte certains de ses propos. Le patriotisme économique, ça peut fonctionner dans la conjoncture actuelle ?
Je crois, vraiment, Agatha a très bien résumé la situation. On est dans une situation de négociation. Quand je dis que c'est catastrophique pour les États-Unis, ça n'a pas complètement échappé à Scott Bessent, par exemple.
Le ministre des Finances.
Le ministre des Finances américain. Et donc, dans une négociation, il faut montrer qu'on est capable de répondre d'une manière importante. Alors, est-ce que demander aux entreprises européennes, parce que français, c'est quelque chose, mais c'est quand même pas énorme, de ne plus investir aux États-Unis peut faire partie de la panoplie de réponses? Je ne crois pas. Tout simplement parce qu'il n'est pas dans le pouvoir des exécutifs ou de la Commission européenne d'interdire les investissements aux États-Unis. Mais tout ça est quand même en trompe-l'œil. Parce que je voulais vous dire tout à l'heure que si cette politique trumpienne est maintenue, c'est vraiment le statut des États-Unis à long terme qui est menacé. Pour être très très court, les trois grands atouts de l'économie américaine depuis longtemps, c'est l'innovation entrepreneuriale. Elle est complètement menacée quand vous avez une économie qui est donnée aux mafieux qui entourent Trump. Donc moins de concurrence et je donne à mes copains et pas aux autres.
Plus les coupes claires dans les budgets des grandes universités, des centres de recherche.
Ça, j'y viens. Ça, c'est mon deuxième point. Depuis le nazisme, c'est l'afflux des scientifiques européens qui a permis aux États-Unis de devenir la grande base en sciences, en physique, en mathématiques, tout ce que vous voulez. Or, aujourd'hui, beaucoup de chercheurs ne veulent plus aller aux États-Unis. Les universités américaines vont avoir beaucoup de peine à recruter. En plus des coupes sombres dont vous parliez, qui touchent aussi bien les universités publiques que privées, les universités privées étant très fortement touchées par la baisse des marchés, puisqu'elles ont un gros capital qui leur permet quand même de financer une bonne partie de leur activité. Donc ce deuxième atout est menacé. Le troisième, et c'est peut-être le plus important, c'est la règle de droit. Parce que quand même, une des forces de l'économie américaine, c'est que s'il y a des jugements dans les tribunaux de New York, ben, c'est quelque chose qui tient la route. Mais comment faire confiance à l'État de droit quand vous avez un président qui dit « je veux me représenter une troisième fois » alors qu'aucun constitutionnaliste ne pense que c'est possible? Donc, à long terme, est-ce que ça sera, si cette politique est maintenue, mais je pense que c'est un gros si, est-ce que ça a du sens de prévoir de nouveaux investissements à long terme dans l'économie américaine? La réponse est non si on maintient ça. Donc, c'est pas la peine de demander aux entreprises de ne pas le faire. En revanche, il y a les investissements qui sont déjà faits, ceux qui sont programmés. Et là, on va quand même pas ajouter, si je puis dire, du mal au mal. Laissons les entreprises le décider. Je pense que vous l'avez très bien dit, c'est sur les questions commerciales. Et là, on a un pouvoir de négociation qui est énorme parce que c'est l'Union européenne dans son ensemble qui répond et non pas tel pays ou telle entreprise. C'est là qu'il faut se bagarrer plus que sur les investissements.
Chahine Vallée, dans une tribune que vous avez publiée il y a quelques jours dans le quotidien Le Monde, vous avez employé cette expression qui est très appropriée, me semble-t-il, s'agissant encore une fois de la manière dont les Européens peuvent répondre à court et à moyen terme à cette politique trumpienne. Vous avez dit « extension du domaine de la lutte ». Alors, extension à quoi ?
Extension à ce qu'on a évoqué un peu plus tôt, c'est-à-dire sortir d'une logique qui se restreindrait à la question commerciale et à la question du commerce des biens pour toucher aux services. Donc on a évoqué des services numériques un petit peu plus tôt, les services financiers aussi, où on a des leviers assez importants. On pourrait imaginer qu'on pourrait contraindre l'accès des fonds américains à l'épargne européenne, contraindre les opérations des banques américaines en Europe. Donc on a un certain nombre de leviers qu'on n'a aujourd'hui pas exploités et qu'on pourrait exploiter en mobilisant ce qui a été évoqué plus tôt, qui est cet instrument d'anti-coercition qui ouvrirait justement les portes de nouveaux domaines de la lutte. Et pour ça, il faut que l'Union européenne accepte qu'on sorte en réalité du champ commercial dans lequel on est peut-être nécessairement perdant et qu'on étende un petit peu à d'autres domaines réglementaires, ce qui implique aussi de prendre des risques, puisque vu ce qu'on connaît de la capture de l'administration américaine par les géants du numérique. Je pense que si on allait sur ce terrain-là, on s'exposerait à de nouvelles représailles, mais je pense qu'il faut qu'on aille sur ce chemin-là. J'aimerais rajouter un mot sur la question de la négociation qui a été évoquée et par Eric et par Agatha. Je pense qu'ils ont raison, on rentre dans une ère de négociation. La question est de savoir, négociation sur quoi ? Et moi, ce que je pense, c'est qu'en fait, nous ne sommes plus dans une négociation simplement commerciale. Et il y a eu un glissement assez important entre la première administration Trump et la seconde, avec l'arrivée notamment de gens comme Scott Bessent ou de Steven Miron, qui est de considérer que les déficits commerciaux chroniques des États-Unis ne sont pas seulement dus à des questions commerciales, mais sont dus aussi à des questions monétaires, et notamment à la surévaluation structurelle du dollar. Donc ce que Miron et Bessent pensent, c'est que puisque le dollar est la devise de réserve internationale de référence, le dollar est structurellement surévalué, et puisqu'il est structurellement surévalué, l'économie américaine souffre d'un déficit commercial chronique. Et donc ce que eux ont en tête, et je pense qu'ils sont aujourd'hui minoritaires dans l'administration Trump, mais je pense que c'est important de le signaler, ce que eux ont en tête, c'est une négociation qui inclurait la question des changes, et notamment du taux de change bilatéral entre le dollar et le renminbi, mais aussi de manière plus large, le taux de change euro-dollar, le yen et compagnie. Et donc je pense que ce qu'il est possible d'envisager, et ce qui d'ailleurs ne serait pas forcément à notre désavantage, c'est une négociation multilatérale qui sortirait de la question purement commerciale pour venir toucher aux questions macroéconomiques de manière plus générale, et y compris à la question de change, avec éventuellement une réévaluation du renminbi, un affaiblissement de dollars, et peut-être des interventions coordonnées à la manière des accords du Plaza en 1985. Et donc je pense que nous, Européens, devons tendre la main aux Américains, malgré la gifle qu'ils viennent de nous mettre, en proposant un deal de cette nature-là, sachant qu'en plus, vu que l'Allemagne est en train de bouger fortement sur sa politique budgétaire, nous avons des arguments pour dire que les Européens sont déjà, en fait, en train de faire de leur côté des choses importantes pour résorber les surplus courants structurels européens. Et donc, nous sommes un acteur bienveillant de l'économie mondiale aujourd'hui, peut-être plus que nous l'avons été par le passé, et nous pouvons accepter un deal de cette nature. Je pense que c'est pas évident que ce soit dans le logiciel trumpien aujourd'hui, puisqu'il est, c'est plutôt un homme de deals bilatéraux, mais je pense qu'un deal multilatéral de cette nature, dont le cœur est quand même un accord entre les États-Unis et la Chine, serait à notre avantage. Et puisque la France aura la présidence du G7 l'année prochaine, au même moment où les États-Unis auront la présidence du G20, nous avons peut-être là un alignement des astres qui permettrait une telle négociation.
En espérant que d'ici là, Donald Trump ne décide de se retirer à la fois du G7 et du G20, dont on se souvient pendant son premier mandat qu'il trouvait quand même les séances beaucoup trop longues. Agatha Kras, la Chine, on sait bien, et ce n'est pas nouveau, ce n'est pas uniquement Donald Trump et ceux que Eric Chanet a qualifiés tout à l'heure de mafieux. Il faut bien dire que ceux qui entourent, enfin c'est l'équipe actuelle est très différente de l'équipe de Trump 1. La Chine est la cible principale, et il y a un consensus bipartisan aux États-Unis depuis plusieurs années, puisque la Chine a la prétention de dépasser les États-Unis pour le 100e anniversaire de la révolution communiste. Donc là, on a vu que dès hier, Pékin a décidé de répliquer fortement, même si on peut penser que les importations de produits américains en Chine sont évidemment bien moindres que ce qui se passe dans l'autre sens. Quel est, selon vous, le raisonnement de Xi Jinping et de son équipe ce matin?
Alors, je pense qu'il y a deux, trois choses à dire avant de se lancer dans cet exercice, de se demander ce que Xi Jinping pense. Juste de rappeler à tout le monde que on pourrait penser qu'à 34%, la Chine s'en tire moins mal que le Vietnam, moins mal que certains autres pays sur la liste. Mais en fait, ces 34% de droits de douane qui ont été annoncés sur la Chine s'ajoutent à 20%, 10 plus 10, qui avaient été annoncés en février puis en mars, sur une raison d'urgence nationale, un peu comme le Mexique et le Canada, liées aux opioïdes. Et donc, on avait eu déjà 2 fois 10% qui avaient été appliqués comme droit de douane sur la Chine. Cela s'ajoute, évidemment, donc on arrive à 54%. En plus de ça, on avait, bien sûr, sous Biden, des tarifs qu'on appelle de section 301, qui avait été imposée sur un grand nombre de produits, dont des batteries, dont des automobiles, des véhicules électriques à 100%, si on s'en rappelle, et qui s'ajoute en plus, évidemment, aux tarifs qui avaient été mis en place par Trump durant sa première présidence. Et donc, en fait, si on ajoute tout ça, il y a plusieurs calculs qui ont été faits sur le sujet, mais si on ajoute tout ça, le niveau de droits de douane imposé sur la Chine à l'heure actuelle est de plus de 65%. Donc la Chine est vraiment touchée plus que n'importe qui au monde par ces droits de douane américains. Et donc ça, c'est très important pour commencer à comprendre comment Xi Jinping y réfléchit. À 65%, on est dans un contexte d'embargo total. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune exportation chinoise qui va trouver un chemin commercialement viable vers les États-Unis dans ce contexte-là. Il faut se rappeler aussi que pendant la première guerre commerciale, la Chine avait profité de l'ouverture et puis de la disponibilité de pôles de manufacturing, de pôles de transshipment qu'on appelle, au Vietnam, en Thaïlande et dans d'autres pays d'Asie du Sud-Est pour faire passer ces produits par d'autres pays où les droits de douane étaient moindres, ou alors pour faire ce qu'on appelle un assemblage final, où en fait on amenait tous les produits et tous les intrants de Chine, on les mettait ensemble au Vietnam, puis on renvoyait tout ça aux États-Unis. C'est plus possible dans le contexte actuel, puisqu'en fait on a plus de 40% sur le Vietnam, plus de 30% sur la Thaïlande, plus de 30% sur la Malaisie, et donc tout ça c'est mis à mal. Et donc on va avoir vraiment une situation chinoise qui va se devenir extrêmement difficile. Il faut se rappeler que en 2024, la Chine dit qu'elle a cru à 5%. On pense à Rhodium Group.
De taux de croissance.
Oui, de taux de croissance de 5%. À Rhodium Group, on pense que ce taux de croissance était beaucoup plus proche de 2,5%. Et le seul élément sur lequel on est d'accord avec les statistiques chinoises, c'est de dire que 1,4% était lié aux exportations. Donc ça veut dire que 2/3 de la croissance chinoise l'année dernière était liée à sa capacité à exporter, évidemment aux États-Unis, évidemment en Europe, évidemment dans le reste du monde.
Ce qui, en termes politiques et sociaux,
oui,
en Chine,
est catastrophique. Exactement, en termes de d'emploi, etc. Donc ça, c'est le contexte pour essayer de comprendre ce qui se passe. Je pense que sur les deux premiers mois de la présidence Trump, Xi Jinping pensait que Trump était une colombe au milieu des faucons. Et on l'a entendu dire par plusieurs sources qui nous disaient, on pense que Trump peut être acheté. Il est corrompu, vous le disiez vous-même, c'est une mafia. Il peut être acheté, donc on pense qu'on va pouvoir arriver à une négociation qui soit concrète. Le fait que la Chine soit frappée, si fort, le fait qu'elle soit frappée plusieurs fois, va probablement diminuer la crédibilité d'un deal entre la Chine et les États-Unis. Je pense que Xi Jinping en est conscient. Qui plus est, ce que la Chine est prête à offrir, ce qui est de l'investissement probablement aux États-Unis, ça a été mis de côté par un document qui est très important qui s'appelle le America First Investment Policy Memo, qui dit en gros que si la Chine investit en quoi que ce soit autre que du textile et des meubles, c'est considéré comme problématique du point de vue de la sécurité nationale américaine. Et donc finalement, il n'y a pas grand-chose que la Chine peut offrir. Elle pourrait offrir évidemment un accord sur le renminbi, mais elle voit les accords du Plaza...
D'évaluer sa devise.
Exactement. Réévaluer sa devise pour que le renminbi, finalement, soit plus cher, moins compétitif.
Totalement contraire, encore plus contraire à ses intérêts.
Exactement. Donc ça irait contre ses exportations. Il faut se rappeler aussi que la Chine voit les accords du Plaza qui avaient été conclus entre le Japon et les Américains comme le début du déclin japonais. Et évidemment, ils veulent absolument éviter le déclinisme japonais des dernières décennies. Et enfin, c'est très dur, puisqu'en fait, la tendance, elle est plutôt à la détérioration plutôt qu'à la réévaluation du renminbi. Donc tout ça se combine finalement dans une espèce de contexte où un deal est peu crédible, à mon avis. Alors, il y aura des discussions, évidemment. La prochaine discussion, elle va se tenir dans les prochains jours sur le cas TikTok. Il faut se rappeler que Trump avait dit, si on arrive à un accord sur TikTok, peut-être que j'accepterai
donc, TikTok,
de baisser.
Et donc, comme chacun sait, surtout ceux qui ont des enfants jeunes,
oui.
une application qui, évidemment, est très différente de Douyin, qui est l'équivalent en Chine.
Oui.
Donc, l'administration Trump veut que ce soit racheté.
Oui.
Par des entreprises américaines, mais c'est pas si facile.
Non.
Et donc, il a été annoncé hier qu'il offrait un nouveau délai.
Exactement.
Pour que ce rachat soit opéré. Elvire Fabry, est-ce que cela veut dire que les Européens ont intérêt, dans un tel contexte, à se rapprocher de la Chine. C'est-à-dire, on sait que, évidemment, le danger est plus grand encore d'être envahi par les surplus d'exportation que la Chine ne pourra plus déverser aux États-Unis. Et on voit déjà ce qui se passe en Europe avec les voitures électriques chinoises. Néanmoins, est-ce que c'est stratégiquement la chose à faire ?
Mais Trump est en train de faire un formidable cadeau à la Chine. Parce que ce que craignait Pékin ces dernières années, c'était non seulement un rapprochement entre les États-Unis et l'Union européenne dans un mouvement de découplage. Et l'Union européenne avait été très claire à travers la voix de la présidente de la Commission européenne. Les Européens sont pour un de-risking et pas un découplage. Donc on développe notre propre approche de la sécurité économique en voulant réduire nos dépendances excessives à la Chine, mais en ne s'alignant pas complètement sur la stratégie américaine. Et finalement, les dialogues de ces dernières années sous la présidence de Biden n'avaient pas donné grand-chose en termes de coordination de mesures anti-Chine. C'était resté relativement limité. Et là, d'une certaine façon, Trump est en train de nous repousser un peu plus proche, j'ai pas envie de dire dans les bras de Pékin, mais plus proche de la Chine. Et pas simplement les Européens, c'est aussi d'autres pays à travers le monde. Et il y a quelques jours, il y a eu ce dialogue réengagé entre le Japon, la Corée du Sud et la Chine. Alors la Chine a un peu survendu.
Oui, ce qui apparaît. Non, mais la Chine toujours. On se souvient que Xi Jinping avait fait le numéro à Davos en disant « Nous sommes les apôtres du multilatéral ».
Absolument. Et se positionnant aujourd'hui comme grand défenseur non seulement de l'OMC, mais de la mondialisation, d'un commerce équilibré, même si la Chine n'accepte pas plus de négociations pour encadrer notamment les subventions. Donc aujourd'hui, la Chine se rend bien compte que les Européens pourraient avoir davantage besoin aussi du marché chinois et aussi de l'accès à l'innovation chinoise. Ce qui nous met dans une position compliquée parce que, comme vous l'avez évoqué, il y a ce risque que l'on anticipait déjà de réorientation des flux commerciaux chinois qui, s'ils n'accèdent pas au marché américain, auront besoin d'accéder au marché européen qui est le marché le plus indispensable, à la fois en termes de taille et de profondeur, de capacité de consommation. En particulier, on le sait aujourd'hui, on en a beaucoup parlé ces derniers mois, mais pour leurs véhicules électriques, mais c'est au-delà de ça même, toute leur technologie verte. Et ça veut dire pour les Européens, à la fois prendre des mesures pour ne pas être envahis par des produits, dumpés, des produits très peu chers qui exercent une concurrence violente sur toute une série de secteurs. Et on le sait déjà, on a des secteurs qui sonnent des cris d'alarme depuis déjà plusieurs mois, y compris dans la chimie. Et la Commission européenne a multiplié les cas de mesures d'enquêtes anti-dumping. Et aujourd'hui, se saisit aussi là de nouveaux instruments qui ont été adoptés, en plus de l'anticoercition qu'on évoquait tout à l'heure, de contrôle sur les subventions étrangères, de réciprocité dans l'accès au marché public. On a des instruments là aussi qui nous permettent de mettre en place des mesures pour ne pas se laisser envahir par des arrivées importantes d'importations chinoises. Mais il faut qu'on ajuste justement cet équilibre entre se protéger, établir des règles, enfin maintenir des règles de concurrence équitable et en même temps maintenir un accès au marché chinois. En particulier, aujourd'hui, on a besoin de transferts de technologie. C'est-à-dire que la relation s'est inversée. Après qu'on ait opéré des transferts de technologie forcés, il faut bien le rappeler, pour accéder au marché chinois. Aujourd'hui, on a besoin d'assurer ces transferts de technologie et notamment de conditionner l'investissement chinois sur le marché européen par des clauses de contenu local, tout en respectant les règles de l'OMC, mais qui favorisent les transferts de technologie et l'utilisation d'une main-d'œuvre locale.
Donc bon courage à la Commission européenne, parce qu'on est véritablement de plus en plus sur deux fronts. Une question encore, réponse brève, malheureusement, l'heure avance. Le Mercosur. Donc ça va relancer, malgré les réticences françaises, ça va relancer le besoin de cet grand accord de libre-échange avec les pays d'Amérique latine.
Ça, la situation actuelle montre encore plus qu'il y a quelques mois. Qu'il y a une dimension géopolitique, géoéconomique très forte dans cet accord, qu'on a absolument besoin de diversifier rapidement nos marchés d'exportation, mais aussi d'importation pour certains minerais critiques essentiels. Et il est temps qu'on ait un débat sérieux, notamment en France, sur cet accord, parce qu'avoir une classe politique qui est à 100% et opposée à un accord comme celui-là, et qui n'est même pas en mesure de ratifier l'accord que l'on a avec le Canada, dont on voit d'abord tous les bénéfices positifs, mais aujourd'hui encore plus, qu'on a absolument besoin de cet accord, et même de trouver d'autres débouchés aussi, en particulier en Asie du Sud-Est, parce qu'il va y avoir une concentration, enfin un approfondissement des échanges commerciaux en Asie du Sud-Est, qui va se confirmer dans les mois, années qui viennent. Et il faut être présent au-delà déjà des accords que l'on a avec le Vietnam, la Corée du Sud, le Japon. Et c'est ce que la Commission européenne a engagé en accélérant des négociations aujourd'hui avec la Thaïlande, les Philippines, mais il y a aussi derrière l'Indonésie, la Malaisie. Avec l'Inde, on sait que ça va être compliqué. Il ne faut pas être trop
optimiste.
C'est
toujours compliqué avec l'Inde.
Mais il faut poursuivre les négociations.
Et Éric Chanet, venons-en à l'autre aspect. On a beaucoup exploré, évidemment, les volets commerciaux, à la fois États-Unis, Union européenne. Ça représente quand même, je crois, à peu près un tiers des échanges mondiaux. Avec la Chine, bien sûr, il y a le volet, le dollar et la politique monétaire américaine. Et on a vu hier le président des États-Unis dire « ce serait quand même bien que la Banque centrale américaine baisse les taux d'intérêt » et quelques heures après, le patron de la Fed, Jonathan Powell, qui a dit l'inverse, qui a dit « c'est pas le moment ». Et de toute façon, avec ce qui vient d'être annoncé sur le plan des droits de douane, chômage, inflation, récession aux États-Unis. Donc, est-ce qu'on va là, pour retourner dans le champ proprement états-unien, est-ce qu'on va là vers un affrontement entre la Fed, institution indépendante, et la Maison-Blanche?
Oui, je crois qu'on est déjà rentré dans cet affrontement que le président Trump avait préparé. Rappelons-nous quand même que c'est lui qui a nommé Jay Powell. Mais pour souligner l'importance de ce sujet, c'est que l'importance, elle est politique. Plus d'inflation, c'est quelque chose qui peut faire perdre les midterm elections aux républicains. Si en plus il y a une récession et qu'il y a plus de chômage, et que les marchés financiers continuent à dévisser, quand même pour les Américains, via leur fonds de pension, c'est leur
y compris
retraite et leur retraite
future. MAGA.
Et surtout les électeurs MAGA, hein, 40%. Bon, je ne vais pas vous embêter avec des chiffres.
Non,
mais cet affrontement, il est dans le tuyau, si je puis dire. Et la grande question, ça sera, est-ce que la Réserve fédérale considère que le surcroît d'inflation dû aux tarifs douaniers est transitoire ou pas ? Et Jay Powell a déjà donné une indication dans ce sens-là. Il a dit, oui, c'est peut-être possible de considérer que ce pic des prix est transitoire, auquel cas c'est l'économie réelle, donc l'emploi, le chômage, qui devrait avoir la plus importance pour les décisions du comité de politique monétaire. Si nous regardons à travers le pic d'inflation et que l'économie se détériore, dans ce cas-là, il peut y avoir... Il me semble que Jay Powell a déjà... de son point de vue, donner la possibilité d'un compromis avec l'administration. Mais il n'est pas tout seul au sein du comité de politique monétaire qui s'appelle le FOMC aux États-Unis. Beaucoup des gouverneurs et beaucoup des membres du FOMC sont d'un avis différent et se disent « si on a une inflation à 4 ou 5%, il est impossible de baisser les taux d'intérêt car c'est la crédibilité de la Fed à long terme qui est en jeu ». Alors, imaginons que la Fed ne baisse pas les taux. Là, le ton peut vraiment monter. Est-ce que l'administration, ou est-ce que le Congrès peut changer le statut de la Fed? C'est quasiment impossible, il faudrait une majorité bipartisane. Mais il existe d'autres options juridiques qui sont assez terrifiantes et qui sont défendues par des juristes côté Trump, mais je parle de gens qui cultivent ces idées depuis longtemps et qui disent, dans le fond, la démocratie américaine, le fondamental de la démocratie américaine, c'est que c'est le peuple qui a le pouvoir. Et qui représente le peuple? C'est le président. Le président nomme les directeurs des agences, qui ne sont pas complètement indépendantes quand même, Christine. Eh bien, s'il a le pouvoir de les nommer, il a le pouvoir de les révoquer, quelle que soit la cause qu'il invoque, et non pas seulement, comme c'est prévu aujourd'hui, en cas de comportement criminel d'un dirigeant d'une agence. Il risque d'y avoir cet affrontement entre l'administration Trump et la Réserve fédérale va probablement passer par la Cour suprême qui aura à statuer là-dessus. Et si jamais la Cour suprême donnait raison aux fondamentalistes, hein, le président nomme, il peut virer, alors là, je pense que pour les marchés financiers, ça serait une catastrophe auprès de laquelle celle auxquelles nous assistons maintenant serait une rigolade parce que les marchés obligataires dévisseraient aussi.
Alors, ça rejoint ce que vient de déclarer le président du Council on Foreign Relations à New York. Monsieur Froman, il a dit, en fait, les États-Unis se rapprochent du modèle chinois. Un nationalisme capitaliste d'État. Agatha Kratz, on aurait pensé à tout sauf à ça.
Oui, enfin, et je pense qu'évidemment les différences sont grandes également et
oui,
elles restent grandes.
Formule est quand même.
Mais je pense que, en tout cas, on s'éloigne d'un modèle qui est un modèle que l'Europe aime beaucoup, qui est un modèle basé sur les règles. Et les règles internationales, et les règles politiques, et les règles constitutionnelles. Je pense que cette semaine, on a vu la mort de l'OMC. L'Organisation mondiale du commerce. Puisqu'en fait, si chaque pays s'engage dans une négociation bilatérale avec les États-Unis, ça veut dire que l'OMC ne sert plus à rien, puisque l'OMC était censé maintenir des niveaux de droits de douane à un niveau plurilatéral. Donc oui, je pense que le plus important, finalement, dans ce que dit Eric, c'est de souligner le niveau d'incertitude. Incertitude sur la politique américaine, incertitude sur la politique de la Fed, incertitude sur le niveau des droits de douane à court, moyen, long terme, puisqu'en fait, les négociations, toute négociation prendra du temps. Donc, combien de temps vont rester les droits de douane qui viennent d'être annoncés? Incertitude sur les chaînes de valeur, etc., etc. Et ça, c'est terrifiant.
Shaheen Vallée, brièvement, est-ce que cette incertitude, elle est... crainte, appréciée, dirait-on en franglais, de la même manière dans toutes les capitales européennes, selon vous? Shaheen?
Non, pas exactement, mais je pense même ceux qui... Oui, vous m'entendez?
Oui, absolument, on vous entend, on vous écoute même.
Vous m'entendez?
Oui, absolument, allez-y.
Très bien. Oui, non, je pense que même les capitales européennes qui avait un a priori favorable à l'administration Trump sont en train de déchanter. Vous aviez évoqué Mélanie et Orban plus tôt. On les entend quand même beaucoup moins aujourd'hui. Donc je pense qu'il y a quand même beaucoup moins d'espoir aujourd'hui dans ce que cette administration peut produire. Et je pense que la comparaison avec la Chine qui vient d'être faite est presque optimiste. Je pense que le modèle américain aujourd'hui de cette nouvelle administration s'approche beaucoup plus du modèle latino-américain du Venezuela ou de l'Argentine en matière de politique économique et de
poutinien
des institutions. Donc je pense que...
poutinien.
Oui. Et donc,
poutinien
que,
vient
même,
d'ajouter
même
Eric Chanet.
Parmi ceux qui étaient les... Oui, oui, oui. Et je pense que, donc, du coup, même ceux qui en Europe adulaient le modèle Trump il y a peu sont en train de déchanter. D'ailleurs, on voit que le Trumpisme fait beaucoup moins d'émules, y compris à l'extrême droite en Europe. Donc je pense qu'il y a quand même un retour à la réalité.
Elvire Fabry, essayons de conclure cette conversation sur une note peut-être, je n'ose pas dire optimiste, mais en tout cas dynamique, en ce qui concerne précisément l'Europe. Nous avions cette conversation ici même samedi dernier. Les opinions publiques européennes, ça déplaît évidemment, en France en particulier, à des franges de l'opinion publique en France et à son personnel politique, mais il y a une envie d'Europe. une envie d'une protection européenne, d'un moment européen. Est-ce qu'on peut imaginer, espérer, cette nouvelle frappe, cette nouvelle gifle infligée par Donald Trump aux Européens, coupable selon son expression toujours très raffinée d'avoir entubé les États-Unis d'Amérique, est-ce qu'on peut espérer en ce moment européen ?
Là, on a beaucoup parlé de la réponse à Trump, la réponse bilatérale et la coordination avec les pays tiers. Mais en fait, la première priorité pour les Européens, là, c'est d'abord de renforcer la compétitivité de l'Union européenne. Compétitivité, capacité de défense, puisque là, quand on parle des réactions des capitales et de ce moment de déniaisement, si je puis dire, le terme est un peu brutal, mais vis-à-vis des États-Unis, on voit aussi que on ne parle pas simplement de commerce, on parle de sécurité, de capacité de sécurité, et vous en parlez suffisamment dans cette émission. Et pour tous les pays, notamment du nord de l'Europe, qui s'étaient beaucoup tournés vers les États-Unis pour les garanties de sécurité et pour un commerce très, très intense, vivent ce double moment de choc. Et pour l'Union européenne, ça signifie d'abord compter sur nous, approfondir le marché unique. On en a parlé, d'abord mettre sur pied une stratégie de politique industrielle dans le secteur de la défense, et beaucoup plus largement, les chantiers sont énormes, on a pris du retard, mais on a un potentiel de croissance économique par l'approfondissement de ce marché unique, si on se dote d'une capacité d'investissement. Donc ça passe par les propositions des rapports l'État, Draghi, et notamment une union de l'épargne et de l'investissement, la fameuse union des marchés des capitaux, aller chercher l'épargne des Européens, investir dans l'innovation et la recherche, se doter d'une capacité en matière de défense, d'industrie de défense, mais aussi réduire nos dépendances dans le secteur digital, donc compter beaucoup plus sur nous-mêmes. Et je dirais qu'on est à un moment où il faut retrouver l'unité que l'on a connue au moment du Brexit, quand les Européens évitaient de prendre des positions dans les capitales de manière désordonnée. Et il faut accélérer aujourd'hui notre capacité d'investissement et compter d'abord sur nous-mêmes. Donc en effet, on a entendu ces deux derniers jours, notamment les courants d'extrême droite dans différents États membres, se dissocier en disant que c'était la faute de l'Union européenne si on était frappé par ces droits de douane de Donald Trump. Mais aujourd'hui, il s'agit au contraire de passer le pas vers un degré d'intégration européen beaucoup plus clair.
Mais on en revient toujours aux recommandations de deux Italiens remarquable, donc Enrico Letta et Mario Draghi. Mario Draghi, on a envie d'imaginer un hôtel où on mettrait des bougies. Saint Mario Draghi, faites en sorte que vos recommandations soient appliquées par nos différents gouvernements. D'un mot, Éric Chenet, pour l'économiste que vous êtes, au-delà des vœux pieux, c'est jouable pour l'Europe ?
Brièvement, je pense qu'il faut penser long terme et que les trois points que j'ai signalés qui faisaient la force de l'économie américaine, innovation entrepreneuriale, science et règles du droit, c'est là qu'il faut aller à fond en Europe. Il faut être plus compétitif, il faut avoir un droit européen et il faut miser massivement sur la science.
Misons sur la science et misons sur le dialogue. Et je vous remercie bien évidemment tous les quatre d'y avoir contribué brillamment ce matin. Éric Chenet, vous publiez plusieurs papiers, l'un fort intéressant dans la revue Telos, et évidemment les analyses que vous publiez sur le site de l'Institut Montaigne. Elvire Fabry, sur le site de l'Institut Jacques Delors, bien sûr, vos analyses et en particulier le décryptage avec Nicole Bertolini de l'arsenal de défense commerciale européen contre ce que vous appelez l'impérialisme de Trump. Agatha Kratz sur le site de Rhodium. Rhodium, ça s'écrit R-H-O-D-I-U-M. Je le précise parce que nous sommes à la radio et que les analyses de Rhodium sont toujours extrêmement précieuses. Shane Vallée, vous avez co-signé avec David Amiel un papier dans Le Monde sur l'urgence de déployer un arsenal de défense économique crédible. À la réalisation ce matin, Luc-Jean Reynaud, à la technique Guillaume Ficheux. Laura Dutèche-Pérez m'a aidé à préparer cette émission, comme la documentation de Radio France, bien sûr. Et dans un instant, voici les carnets de santé de Marina Carrère-Dancausse. Très bon week-end et à samedi prochain.